On va vous donner le détail des températures à venir. On va voir ça notamment du côté du Jura, Mouthe, le grand frisson ce soir avec vous, Marie Gentric. Vous confirmez, Marie, le froid est là. Il va faire quoi? Moins 9 chez vous?
Ouais, je confirme, le froid, il est là. On va jeter un petit coup d'œil au thermomètre. Regardez, là, actuellement, il fait à peu près moins 5 degrés et ça va continuer à descendre cette nuit parce que demain, vous l'avez dit, on attend moins 9 degrés et ça va continuer à descendre au cours des prochains jours, hein, moins 11 degrés qui sont attendus ce week-end. Alors, la région, elle a l'habitude de ces températures extrêmement froides. En 1985, c'est même cette ville, Mouthe, qui avait battu le record de la ville la plus froide avec, tenez-vous bien, moins 41 degrés. Donc les habitants, ils sont habitués au froid. En revanche, ce à quoi ils sont moins habitués, c'est le risque de coupure, le risque de délestage dont on parle depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. On a pu parler avec plusieurs habitants de cette petite ville qui nous disent qu'ils ont quelques interrogations. L'une des questions, c'est est-ce que nous, on peut être concernés par ces coupures? Est-ce que les villes, les villages où il fait si froid pourraient voir de possibles délestages? Là, on parlait justement avec un monsieur, il s'appelle Gilles. Il nous expliquait qu'il était paré en cas de coupure puisque lui, il a un générateur qui peut lui permettre de tenir le temps nécessaire si jamais il y a des coupures. On parlait avec un autre monsieur qui lui nous expliquait que ce serait très compliqué si jamais il y avait une coupure, parce que moins 20 degrés sans chauffage, sans électricité, forcément, c'est pas facile. Donc voilà, là, ici, il fait froid, le froid, on y est habitué. En revanche, il y a des questions qui se posent avec le contexte actuel.
Évidemment, Marie Gentric en direct de Mouthe avec Célia Vallée. J'ai dit dans le Jura, c'est dans le Doubs. Oui, mais c'est à côté.
Non, rien à voir.
Oui, merci, c'est le massif du Jura.
Le Doubs, c'est pas le Jura.
Bon, c'est.
Comment c'est un doubiste qui vous le dit, un doubiste.
Un doubiste. Bon, voilà, c'est corrigé. Christophe Persson, chef du service météo et climat de BFM TV, est avec nous. Christophe, on disait moins 9, un peu plus, même un peu moins du côté du Doubs. C'est ce qui nous attend plus ou moins tous dans les jours qui viennent?
Pas à ce point-là. En plaine, ce sera quand même pas aussi froid. Mouthe, c'est quand même un petit peu en altitude. C'est une ville très exposée. Alors déjà, une chose, on parle en météorologie de température sous-abri. Parce qu'actuellement, la température à Mouthe sous-abri, c'est moins 2. Et vous le voyez sur un thermomètre, en revanche, qui n'est pas à l'abri, qui ne garde pas un petit peu plus d'air, on le voit, c'est quand même beaucoup plus froid. Et voilà un petit peu ce qui nous attend lors des prochains jours. On va avoir la masse d'air, on va le voir là sur l'image, qui va changer. Sur la moitié nord, nous sommes dans l'air froid. D'ores et déjà, ça va être pire en fin de semaine, car vraiment tout cet air froid en provenance de Scandinavie, de Russie, le Moscou Paris va s'installer. Et même l'air doux qui résistait du côté de la Méditerranée et qui apporte actuellement des pluies, il va se rétracter en direction de la Méditerranée. Donc ce froid va gagner l'ensemble du pays. C'est ça la grosse différence avec la situation que l'on a actuellement. Et voici déjà les températures prévues pour dimanche matin qui vont fortement chuter car on aura plus d'éclaircies. Pas de nuages la nuit, les températures chutent beaucoup plus.
On me dit dans l'oreillette, ça caille.
Ça caille sévère. Moins 2, moins 5 degrés sur une grande partie du pays. Alors près de la Méditerranée, ça restera toujours un petit peu plus doux. Pour l'altitude, vers le massif central, vers les Alpes, on pourrait même être en dessous des moins 10 degrés. Mais vraiment, le point le plus critique, ce sera en début de semaine prochaine, où ce froid devrait se maintenir et même peut-être se renforcer légèrement lundi, voire mardi, où on aurait des températures de moins 2 à moins 6 degrés sur une grande partie du pays. Et on le sait, la grosse différence entre le week-end et la semaine, c'est qu'en semaine, on consomme plus d'électricité. Donc le prochain point critique, c'est quand même plutôt lundi, voire mardi.
Ça se fera en hiver, c'est quand même pas une...
Bien sûr que non. Vous a pas échappé qu'on avait un petit problème au niveau de l'électricité?
Oui, non,
c'est pour ça qu'on en parle.
Non, mais je veux dire que ces températures-là, elles sont normales.
Bien sûr.
Elles sont en dessous des normales, mais elles ne sont pas exceptionnelles.
Elles ne sont pas exceptionnelles.
Non, on est d'accord.
Juste une chose, Christophe, encore.
D'être dans un monde irréel.
On pourrait avoir une alerte orange des co-watts, vu ce qui nous arrive là ou pas?
Au vu des prévisions, en tout cas, le plus gros pic, ce serait lundi-mardi. Au vu donc des températures, il y a un risque qu'il y ait cette alerte orange. Ce n'est pas exclu du tout. On le saura vraiment vendredi lorsqu'il y aura la mise à jour, puisqu'on sait que ça va à J3. Donc vendredi 17h, on saura si lundi on a une éco-watt orange.
Bon, merci beaucoup Christophe Persson d'avoir été avec nous en direct. Luc Le Floch-Prigent. Je le disais, on vous a vu remonter ces derniers jours.
Je suis toujours.
Vous êtes toujours remonté ce soir.
Remonté tranquille.
Mais en colère tranquille ce soir.
En colère tranquille. J'étais en colère. Je suis toujours en colère. Oui.
Qu'est-ce qui vous met en colère?
C'est-à-dire que vous êtes en train de me parler de coupure d'électricité. Or, c'est un problème relativement facile à régler. Il suffit de ralentir l'activité. Alors, tout le monde sera content, l'ensemble des particuliers seront contents. Simplement, il n'y aura plus d'entreprise et vous aurez du mal à aller au travail parce que vous n'aurez plus de raison d'aller au travail parce qu'il n'y aura plus de travail. Donc, le problème n'est pas, contrairement à ce que vous racontez depuis des semaines et que le gouvernement raconte aussi, parce que si jamais vous en êtes là, c'est parce qu'on vous a raconté ça. Le problème, ce n'est pas les coupures et les problèmes de délestage. Le problème, c'est le prix. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, ça arrive, pour la plupart des entreprises, le contrat d'électricité qu'ils vont avoir va passer de 1 à 3, 5 ou 6. Mmh. C'est ça la
situation. On va multiplier donc, le tarif de l'électricité.
Alors, la conséquence, c'est quoi ? C'est soit on essaie de comprendre pourquoi, ayant un prix moyen qui n'a pas varié depuis plusieurs années, compte tenu de l'hydraulique et du nucléaire, pourquoi ce prix augmente, et essayer de sauver les entreprises, puisque si jamais on est dans cette situation, on a 150 000 à 300 000 entreprises qui déposent le bilan au 31 décembre. C'est ça le sujet.
Ah, pour vous, c'est ça le sujet. Pas possible de dire qu'il y a deux problèmes. Un problème qui est le prix de l'électricité, et un deuxième problème, pour vous parler des entreprises, pour les boulangers, pour les petits commerçants, le problème c'est aussi s'il n'y a pas assez d'électricité. Ce n'est pas ce problème-là.
Excusez-moi, madame, de vous interrompre. 30 secondes, vous m'avez interrompu, je vous interromps, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si jamais vous arrêtez les entreprises qui font 60% à peu près de la consommation électrique, vous n'avez aucun problème avec leur
travail particulier. C'est une solution absurde.
Ce n'est pas le choix qui est fait. Donc le problème,
ce sont bien les entreprises qui, aujourd'hui, voient leur consommation équivalente tant qu'elles produisent, et qui ne sont pas en mesure de produire compte tenu des conditions dans lesquelles les prix se font. C'est ça le sujet.
On va essayer de détailler tout ça.
Et donc ce sujet, excusez-moi de vous dire, c'est un sujet plus important que de savoir si vous allez avoir des délestages ou pas, etc. Parce que ce problème de délestage, il est relativement soluble. Alors, on ne va pas vous expliquer en détail pourquoi, mais il est relativement soluble. Et la façon dont ça a démarré, c'est lorsque la ministre de la transition énergétique a dit, c'est facile, on a réuni les patrons du CAC 40 et puis on leur a dit, il faudrait que vous fassiez des économies. Bon, ces économies, c'est facile. Le lendemain, ArcelorMittal a arrêté un ou deux fours. Effectivement, c'est une solution. C'est une solution, mais c'est une solution qui ne va pas dans le sens de l'économie.
On va en parler ce soir avec le Vanguard, parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont annoncé aujourd'hui des décisions similaires. Une chose quand même, parce que malgré tout, et vu l'ambiance, je salue Frédéric Bianchi, journaliste BFM TV, BFM Business, qui vient d'arriver sur notre plateau. Merci Frédéric d'être là aussi pour nous éclairer. L'inquiétude du moment, ça reste quand même
parce qu'on a dit attention, vous allez délester, vous allez délester.
On a nourri
l'inquiétude.
Attendez,
on nourrit l'inquiétude.
Ce soir, sur notre antenne, le représentant de RTE qui transporte l'électricité, donc jusqu'à chez nous, en France, est venu expliquer en disant pas de panique, au moins jusqu'à la fin de l'année, ça passe. Écoutez.
Oui. Avant la fin de l'année, non. Et après la fin de l'année, et au début de l'année prochaine, il faut pas paniquer. Nous réalisons un certain nombre de scénarios qui sont finalement des hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles à prendre en compte. Il y a des bonnes nouvelles comme la baisse de la consommation, puisque vous le savez, quand on observe la consommation de ces dernières semaines, de ces quatre dernières semaines, et qu'on la compare à une période 2014-2019. Alors pourquoi 2019 ? Parce qu'après on a eu les années Covid. On constate que cette consommation, elle a baissé de plus de 6%. Et si, rien que sur la semaine dernière, elle a baissé de 8,3%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Bon, avant la fin de l'année.
Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle.
Quand on vous dit que la consommation électrique baisse en France, c'est un problème.
La production industrielle a baissé. C'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est passé après les réunions qui ont eu lieu avec les grands consommateurs d'électricité, qui sont les gens qui font du ciment, de l'acier, etc. Voilà.
Et on a des entreprises, Frédéric Bianchi, aujourd'hui, comme Cofigeo. Alors, personne ne connaît Cofigeo, sauf que si je vous dis William Sorin, Garbit, etc., là, tout de suite.
C'est bon comme la Badie.
Voilà, c'est bon comme, exactement.
L'Aérochlore.
Exactement. Gros consommateurs d'électricité pour chauffer, etc. Cofigeo a annoncé aujourd'hui qu'ils mettaient 80% de leur site de production à l'arrêt.
C'est ça que j'appelle des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle de RTE, c'est une mauvaise nouvelle pour moi.
Frédéric Bianchi.
Et une mauvaise nouvelle pour la France.
Effectivement, il y a ces mauvaises nouvelles parce qu'aujourd'hui, la consommation, c'est moins 15% pour ce qu'on appelle la grosse industrie. C'est vrai, là, c'est là qu'on consomme moins, que RTE, en tout cas, constate les plus fortes baisses. Mais les particuliers, ce qu'on appelle le résidentiel, a baissé aussi. Il y a eu aussi des économies estimées à 6-6%.
Parce qu'il a fait un peu plus chaud.
Économies.
Attendez. Le club président, fallait s'expliquer. On est là pour dialoguer.
En tout cas, la baisse de 8%, c'est équivalent à 6 réacteurs nucléaires qui sont économisés depuis un mois par rapport à la période 2014-2019. C'est quand même pas rien pour passer cette période. Il y a deux problèmes, comme vous l'exprimez parfaitement. Il y a cette question de la consommation d'électricité avec une production qui ne suit pas, parce qu'on a 19 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Mais il y a quand même il y a le problème des prix d'énergie, sur lequel vous êtes exprimé d'ailleurs, et vous allez revenir avec l'éventuelle réforme de ce marché des prix européens de l'électricité. Mais en attendant, il faut quand même régler, il faut savoir comment on va passer l'hiver avec le moins de délestage possible.
Cet hiver-là est relativement facile à passer, de mon point de vue.
En faisant des économies.
Dans la mesure, mais c'est pas les économies, parce qu'un enfant prend une douche au lieu de deux, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Hein, c'est parce que, effectivement, les gens se disent, bah oui, il faudrait quand même que je fasse des économies. OK. Mais c'est de l'ordre du pourcent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse de la production, et que cette baisse de la production, si elle continue, va conduire à du chômage partiel, pris ou pas en compte par l'État, mais il pourra pas continuer à faire le quoi qu'il en coûte très longtemps, et par conséquent à un dérèglement de l'ensemble de notre système économique. C'est ça le sujet de mon point de vue.
Pourquoi
est arrivé là, on va y revenir j'espère, c'est parce que on a maltraité l'ensemble du dossier électrique depuis
Certain nombre d'années. Première maltraitance, si je puis dire. On a ce soir 19 réacteurs français qui sont à l'arrêt, 19 réacteurs nucléaires à l'arrêt. On manque d'électricité aussi à cause de ça. Est-ce que pour vous, elle est là la première maltraitance ?
Absolument. Première maltraitance, c'est-à-dire que en général, depuis le plan Messmer, le 1er janvier de chaque année, tous les réacteurs sont en fonctionnement. C'est le principe sur lequel j'ai été éduqué, excusez-moi, c'est ça. Bon, et là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que on a déplacé les programmes de maintenance en se disant, maintenant, on va aller vers plus tard à cause du Covid, etc. Ok. Bon, est-ce qu'il était nécessaire de faire autant de programmes de maintenance dans cette dynamique ?
Qui l'a décidé ?
L'a décidé, c'est les instances. Ce sont les instances de sûreté nucléaire. Et je dis que ces instances de sûreté nucléaire ne sont pas sérieuses, c'est-à-dire elles n'ont pas pris en compte le problème des Français, le problème de l'entreprise française, et pour essayer...
Pour vous, il aurait fallu décaler la maintenance.
Absolument. Décaler une certaine maintenance, il fallait regarder comment étaient les réacteurs. Premier sujet.
C'est compliqué.
Deuxième sujet. Les 7 centrales sur lesquelles on a arrêté pour des raisons de corrosion sous
cette centrale.
Je dis que sur ce sujet... Moi, en tant qu'industriel, il y en a une qui montre un problème, je règle ce problème et je ne dis pas les 6 autres sont pareils, par conséquent, j'arrête tout.
OK, on vous a compris.
C'est ça le sujet.
Attendez, c'est ça le sujet. Roselyne Bachelot.
Oui.
Vous qui avez été en charge de ces sujets-là aussi, au début des années 2000.
Effectivement, j'ai eu la tutelle sur un certain nombre d'institutions, en particulier l'ASN, les autorités de sûreté nucléaire. J'ai exprimé, dès mon arrivée au ministère de l'écologie, mon militantisme sur l'industrie nucléaire. Je suis interrogé 24 heures après mon arrivée au ministère de l'écologie sur Inter, et je dis que pour des raisons écologiques, il faut pousser le nucléaire parce que c'est l'industrie, c'est la fourniture d'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre. Je n'ai été suivi quasiment par personne. Évidemment, je me suis fait pourrir par les écologistes et affidés, mais j'ai reçu même très peu de soutien de mon camp. Donc, il y a eu, depuis 20 ans, puisque cette affaire arrive il y a 20 ans, il y a eu un dégommage du nucléaire qui a été partagé par l'ensemble de la population. Et ça, c'est évidemment tout à fait dommageable.
Nicolas Sarkozy n'était pas...
Non, mais j'ai été soutenu par Alain Juppé. Très fortement, je dois le signaler. Et alors, en même temps, parce que évidemment, le triptyque, on le connaît, c'est le maintenir et le parc nucléaire, faire aussi de la recherche sur le nucléaire et en particulier sur la possibilité de se recharger en uranium. Et puis les nouvelles générations de réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est extrêmement importants, parce qu'il ne faut pas non plus être statique sur l'énergie, sur les centrales nucléaires. Deuxièmement, les énergies renouvelables, bien sûr, et puis la sobriété énergétique, parce que c'est un système gagnant-gagnant pour les énergies, pour les ménages. Mais on voit en même temps que sur, par exemple, les parcs éoliens, il y a les gens veulent pas, ils veulent tout et le contraire. À un moment, parce qu'il va y avoir 3 éoliennes qu'on va voir de la côte, il y a toutes sortes d'organisations de protection de l'environnement.
Un manque de courage politique à ne pas avoir une stratégie qui consiste à dire vous aimez peut-être pas les éoliennes. Il va falloir, la Grande-Bretagne l'a fait, l'Allemagne l'a fait.
Allez, on reviendra sur les éoliennes dans une seconde. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez sur le nucléaire. Restez sur le nucléaire. Vous dites qu'on aurait pu décaler une partie de la maintenance. Il y a un enjeu de sûreté derrière.
Oui.
Si l'autorité de sûreté nous dit il faut arrêter, il faut réparer, peut-être les écouter.
Et si elle se trompe, monsieur? Et si jamais elle est infestée d'antinucléaire? Voilà la situation dans laquelle...
Pour vous, l'autorité de sûreté nucléaire est infestée d'antinucléaire aujourd'hui
forcément,
en France?
Pas forcément toutes. Mais le président ne l'est pas, hein, de l'agence, mais à l'intérieur, oui, bien sûr.
Ah oui, sur les
l'IRSN, et l'IRSN en particulier, mais c'est une notoriété publique. Pour nous, ingénieurs, nous le savons très bien. Donc, on a un problème, et donc il fallait donc, essayer de regarder.
Du coup,
il fallait essayer de comprendre. Alors, on a des gens compétents dans le paysage, des gens qui sont relativement neutres. C'est-à-dire, le haut commissaire à l'énergie, atomique qui était au CEA, donc lui, Yves Bréchet, il s'est exprimé, vous l'avez entendu, et il a dit la même chose que moi. Donc il y a un problème.
Mais ça va les rendre fous à la scène que vous disiez. En gros, je reprends le mot qu'employait Pauline.
C'est ce que je viens de dire.
Mais c'est du sabotage.
Je dis ça. Je considère que les gens qui s'occupent aujourd'hui de la sûreté nucléaire sont des gens qui vont trop loin dans la précaution.
Et moi, je n'ai pas eu le sentiment, en ayant la tutelle sur ces organisations, je reconnais qu'il y a 20 ans, je n'ai plus la tutelle sur les autorités de sûreté nucléaire. Mais j'ai rencontré des gens, c'était peuplé d'ingénieurs des mines, qui avaient une démarche qui était quand même scientifique et technique, parfaitement argumentée. Alors,
j'ai
développé quand même une stratégie.
J'ai commencé ma carrière avec Pierre Guillaume, Madame Bachelot, et je sais à peu près de quoi je parle sur le sujet. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pris de multiples précautions, de trop grandes précautions, d'avoir retardé le programme de maintenance, parce qu'on l'a retardé,
ça,
on n'a pas mis les crédits, on n'a pas mis de crédit, et on a dit, il y a le Covid, donc il faut arrêter. Puis soudain, on a dit, oh là là, il faut le faire. Et il aurait fallu regarder en perspective le fait que le 1er janvier 2022, puis le 1er janvier 2023, puis le 1er janvier 2024, et ainsi de suite, il fallait que tous les réacteurs...
Quand je suis en responsabilité en 2002, on sait très bien que ce qu'on appelle l'effet de falaise sur les centrales nucléaires...
C'est-à-dire
qu'on va se trouver à un moment où tout les centrales nucléaires vont être en besoin de réadaptation et d'entretien. Et ça, c'est cette chose,
ça
on le sait.
Mais ça n'a pas été anticipé. C'est quand même dingue.
Ça a été anticipé dans l'autre sens. C'est-à-dire les antinucléaires.
Mais si par exemple, on fait en ville et par une nouvelle génération de.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
En particulier, en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, vous savez aujourd'hui comment, en 97, on a arrêté ces réacteurs. C'est le programme Superphénix. Mmh. On l'a arrêté de façon parfaitement... C'est une longue filière qui a commencé en 97, qui a été ensuite... Vous avez eu la loi NOM sous Sarkozy, qui a fait qu'on a pris une partie du parc en disant on va nourrir des fournisseurs qui ne produisent pas, ne distribuent pas, ne transportent pas, et on va en faire le marché de l'électricité. Ce marché de l'électricité montre aujourd'hui qu'il est nul, qu'il faut l'enlever. On dit on veut pas l'enlever, il faut le réformer. On peut pas réformer quelque chose qui est artificiel et qui ne marche pas.
Pour
et aujourd'hui, si jamais vous êtes dans la situation où vous êtes, c'est parce que pendant 25 ou 30 ans, vous avez une politique nucléaire absurde.
Une absence de stratégie.
Et que tout le monde le savait. Bah oui,
c'est pire.
Moi,
j'ai
fait un livre en 2018 qui s'appelle Il faut pas se tromper, où j'ai indiqué voilà où on va. Hein, donc
mais ce qui a le plus retardé le développement du nucléaire, c'est quand même le problème de Fukushima, et donc c'est un problème de sûreté.
Oh, c'était
donc,
bien avant.
Non.
On peut pas mettre la sûreté. Si on met pas la sûreté en premier, fait, on a fait.
Fukushima, c'est pas un problème lié au nucléaire.
Je ne dis pas ça. Je vous dis simplement que ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le lobby anti-nucléaire a été très fort. Et en 97, il a affaibli l'élément dominant du nucléaire, qui était, on fait le cycle complet, très bien expliqué Yves Bréchet, c'est-à-dire que les déchets...
Alors Yves Bréchet,
les déchets qui sont l'élément sur lequel les antinucléaires disent c'est terrible parce qu'on va avoir 100 000 ans de déchets, cet élément-là était traité par les physiciens, dont je suis
le mouvement antinucléaire chez les écologistes date d'une quarantaine d'années.
Tous en même temps, s'il vous plaît.
Le réacteur de Superphénix qui a été arrêté, qu'on soit contre ou pour son arrêt, restait un réacteur expérimental qui n'a pas prouvé sa pérennité industrielle.
Si.
Il fonctionnait de façon très intermittente.
Ça n'a rien à voir.
Et c'était un démonstrateur. On ne peut pas se baser sur un démonstrateur pour dire qu'on a arrêté
démonstrateur, on peut pas alimenter la filière.
Ce n'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec vous, mais vous avez droit d'avoir votre avis. Ce n'est pas le mien.
Ça,
et moi, je fais du nucléaire depuis 40 ans. Il y a pas de problème.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé un problème purement.
Arrêté en 2019.
Il s'est passé un problème purement politique qui est venu perturber l'approche scientifique de la chose. C'est-à-dire que tant que les écologistes étaient un mouvement, un groupusculaire, le fait qu'ils soient antinucléaires n'avait pas d'importance. Et petit à petit, le mouvement écologiste a pris de l'importance et le nucléaire a été l'élément de négociation politique du dossier. Et c'est ça qui
nous a entièrement affaire. On revient à Superphénix en 97. Mais vous, 5 ans plus tard, quand vous êtes au pouvoir, j'allais dire, vous n'avez pas ce problème-là avec les écolos, ils ne sont pas dans votre coalition.
Ça y est, Superphénix est arrêté, en voie d'arrêt, parce que c'est...
Mais vous auriez pu...
Superphénix, c'est pas quelque chose comme d'éteindre la lumière dans une pièce.
À ce moment-là, la droite peut lancer autre chose, peut lancer des projets
qui auraient abouti aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on lance, par exemple, le programme ITER. C'est aussi quelque chose de très important, la fusion. Il faut vraiment... se dire que l'industrie de l'énergie nécessite des investissements absolument considérables et que on est dans une situation où ces investissements, moi je considère, et c'est ça qui me fait presque plus peur que l'arrêt de certaines la mise en maintenance de certaines centrales, c'est que sur ces programmes de recherche à bas bruit, on les arrête.
Alors donc ce qui se passe, madame, c'est d'une part on arrête les programmes, mais on arrête aussi les travailleurs. Et on arrête
et
le recrutement.
Formation.
Et on arrête le recrutement. Et donc aujourd'hui, pour régler le problème des soudures, aujourd'hui, on a été chercher 1500 soudeurs aux États-Unis et au Canada. Bon, pourquoi ? Parce qu'on les a pu. Parce qu'on a dit, cette filière, c'est fini. Donc c'est un long programme, un long cheminement qui a conduit à la situation d'aujourd'hui. Et je dis, dans cette situation d'urgence, que vous êtes en train de voir, je pense que les mesures d'urgence n'ont pas été prises. Alors j'ai pris un certain nombre d'exemples, c'est-à-dire que moi, lorsque j'ai dans mon usine cette machine pareille et qu'il y en a une qui flanche, j'arrête pas les 7. Bon, c'est pour ça que je vous disais, ça fait pas. 2, lorsque j'ai un problème d'urgence, il faut que dans la semaine je puisse avoir la machine qui tourne. Bien, je vais à l'inspecteur du travail et je dis maintenant j'ai envie d'avoir de pouvoir travailler en 2x12 puisque je n'ai que très peu de gens qui savent, donc il faut qu'ils travaillent en 2x12, il faut qu'ils travaillent le week-end, est-ce que j'ai le droit à l'autorisation de faire, et en une semaine je règle un problème qui, si jamais je ne prends pas la mesure d'urgence, va me prendre un mois. Or la mesure d'urgence, lorsqu'on commence à comprendre qu'il y a un problème, et on commence à avoir un problème avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, attention, qu'est-ce qui va se passer l'hiver prochain? La guerre en Ukraine est un révélateur. Et à ce moment-là, on ne prend pas les mesures d'urgence. Et ma colère, puisque vous avez dit que j'étais en colère, et je suis en colère, c'est qu'on n'a pas pris les mesures d'urgence et on continue à ne pas les prendre. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, attention, il faut que vous fassiez des économies, il ne faut pas prendre de douche, il faut que vous disiez à vos enfants d'éteindre la lumière. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment produire et comment arriver à ce que plus de centrales nucléaires arrivent le 1er janvier à
fonctionner. Autre sujet que je voudrais aborder, tous ensemble, calmement, Frédéric Bianchi, ce sont les énergies renouvelables. À quel point est-ce qu'elles nous aident en ce moment ?
Alors, monsieur Floch-Prigent ne sera pas d'accord. Il considère que c'est...
On connaît les
limites et les intérêts des énergies renouvelables. Elles apportent un petit peu, quand même, un peu de quantité d'électricité.
Combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est à 3%, 4%.
Oui, attendez, on est à 3%. J'ai regardé tout à l'heure, avant de venir, RTE, le bilan de ce soir à 20h45. Je suis désolé, c'est les derniers chiffres. J'ai même montré ça à Roselyne tout à l'heure sur sa tablette. Éolien, aujourd'hui, on est autour de 3%. Aujourd'hui, solaire, 9%.
Donc on est à 12%.
Et puis là, il y a l'hydraulique.
Non, mais il y a d'autres choses. Il y a l'hydraulique qui est beaucoup plus élevée, autour de 14%,
la géothermie,
etc.
Il y a
alors
un
effectivement,
peu de
géothermie, bien sûr, bien sûr. Quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, elles ne produisent rien parce qu'on ne stocke pas cette énergie-là. Ça dit 12%, quand on voit que on se félicite d'avoir 8% de baisse de consommation. 12%, c'est utile. 12%, c'est pas.
Ouais. C'est combien quand même en Allemagne et en Grande-Bretagne, par exemple.
En Allemagne, on doit être aux alentours de 25%.
Voilà.
Alors, effectivement, quand il n'y aura pas de soleil, ce sera problématique. Mais le matin, le solaire produit un petit peu d'électricité. Et on sait que les pics de consommation sont entre 8 et 13 heures. Donc là, il y aura quand même un petit peu d'électricité solaire qui viendra pallier le manque de production qu'on peut avoir, notamment sur le nucléaire, avec 19 réacteurs à l'arrêt.
Loïc Lefloc-Prigent, on a ces chiffres insuffisants sur les énergies renouvelables. Mais s'ils sont insuffisants, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans les énergies renouvelables.
Maintenant, il faut prendre un petit cours de physique tranquille, 30 secondes. Qu'est-ce que c'est l'électricité?
À 23h11, j'adore, allez-y.
C'est des électrons en mouvement.
Oui. Bon,
le mouvement ne se stocke pas. Par conséquent, le problème des énergies intermittentes, le fait qu'elles soient renouvelables, ça me plaît, moi. Je suis d'accord pour les énergies renouvelables, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les énergies intermittentes, c'est ça le mot important, c'est intermittent. Donc ça veut dire que j'ai l'électricité à un moment, pas et lorsque... Et alors, il faut que j'en ai besoin. Et l'électricité, c'est un truc bizarre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre quotidien, seconde par seconde, entre une production et une consommation. Vous ne pouvez pas le stocker. Le gaz, vous le stockez, etc. Et tous les gens ont le sentiment que les électrons, on les prend, on les met dans la poche et puis on les ressort. Ce n'est pas vrai. On fait
en temps réel,
et donc on va avoir des batteries. On va dire, on stocke dans les batteries. Non, on ne stocke pas dans les batteries. On change d'état dans les batteries. Par conséquent, on a un rendement dégueulasse. Donc on met, on change le produit qui est là, et puis le produit restitue. Si jamais vous n'en servez pas, vous avez vu votre batterie, elle est plate.
Enfin, le stockage de l'électricité, donc on est bien... c'est aussi une voie de recherche. Hein.
Donc c'est le stockage. Vous n'êtes pas sur la planète Mars, il y a des limites à la capacité de stockage, donc vous ne stockez pas le mouvement. Que vous veniez
attendez,
ou pas,
donc qu'est-ce que vous faites des éoliennes, du solaire, etc.
Alors donc, vous avez des éoliennes, et à quel moment elles produisent? Bon, aujourd'hui, on est en train de dire, j'ai un problème de pic. L'éolien, il n'est pas dans le pic. C'est-à-dire que dû grossièrement sur 1er janvier jusqu'au fin février, grossièrement sur les abacs que vous verrez sur l'Allemagne, vous verrez que bon, il y a un mois où les éoliennes ne tournent pratiquement pas. Hein, où elles sont en dessous de 40 km/h, ça ne marche pas, par conséquent, elles ne tournent pas. Donc ça ne résout pas le problème que nous avons là aujourd'hui, qui est celui de savoir comment on va passer le pic. Et ce que les Allemands ont fait, mais ils ont dit, voilà, je fais de l'éolien, je fais du solaire, je fais du solaire. En fin de compte, ils avaient du gaz et du charbon.
Oui, c'est ça.
Donc les centrales, l'éolien suppose qu'on ait du gaz et du charbon, hein, pour pouvoir fonctionner.
Et pour pouvoir
servir le consommateur. Donc, on a menti en Allemagne pendant longtemps, et on nous a menti aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, par exemple, les éoliennes de Saint-Nazaire font 750 000 foyers, soit du entendu breton, on ment. Parce que quand on a besoin de l'électricité, l'électricité éolienne n'est pas là. Et par conséquent, quand on a l'électricité éolienne, elle part sur le réseau. Donc c'est pas ça qui se passe. Physiquement, c'est pas ça qui se passe. Et donc la Bretagne est servie par quoi? Par la centrale à gaz de l'Andivisio, par la centrale à charbon de Cordemais et par la centrale de Chinon juste à côté. C'est comme ça que la Bretagne est servie et non pas par la centrale. Elle ne sera jamais servie par la centrale de Saint-Nazaire. Donc il faut bien comprendre ce qu'on fait. Alors est-ce que aujourd'hui on est dans l'urgence puisque on a un problème. Est-ce que c'est urgent de faire ça? Et je dis simplement, donc je suis remonté effectivement, parce qu'on dit, vous êtes en train de crever, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on passe au Parlement une loi pour enlever les recours pour la centrale éolienne, parce que essentiellement...
Pour les faire plus facilement et plus rapidement.
Plus rapidement. Or, quel effet ça a sur 2023, 2024, 2025, rien.
C'est pas le sujet.
Il y a un mensonge permanent sur la capacité de
résoudre les problèmes. Vous dites mensonge.
Et donc, il n'y a pas de raison de mentir.
Mais mensonge de qui?
Mensonge global, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui parlent de l'énergie aujourd'hui.
Mais dans quel but? Dans quel intérêt?
Parce que l'éolien, c'est un truc extraordinaire du point de vue financier. Alors là, si vous avez envie de faire 12%, moi je peux pas faire ça dans l'industrie. Si vous avez envie de faire 12% par an et de tirer la terre.
Pardon, mais les écologistes, les marges de l'éolien, ils s'en foutent.
Les marges. Bien sûr que si. Ils y sont, ils ont, et quel que soit le courant qui passe, ils ont une rentabilité assurée. C'est fantastique.
Non, mais je vous dis, les écologistes, ils défendent l'éolien. Ils n'ont pas l'intérêt financier là-dedans.
Les écologistes sont partis sur l'antinucléaire et on dit la solution, c'est l'éolien. Et moi, je vous dis, la solution, c'est une partie de la solution.
Je suis curieux.
Mais ce n'est pas la solution. Frédéric, il n'y a pas la solution.
Sur le nucléaire.
C'est une partie et surtout pas la partie.
Les écologistes, ils ont surtout
la partie correspondante.
Ils ne sont pas idiots.
Surtout pas la partie correspondante au pic.
Qui a besoin d'une énergie socle. Et quand je discutais du nucléaire avec les écologistes, ils étaient pour les centrales à gaz. C'était pour eux l'énergie socle, parce qu'ils reconnaissent aussi, ils ne sont pas complètement idiots, que les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Même si on n'est pas docteur en physique, on a à peu près...
Même moi, j'ai compris.
C'est dire. Bon, mais moi, je pense que
il y a
deux façons de considérer la fourniture énergétique dans ce pays. Il y a la fourniture énergétique de base, et je pense que l'apport des énergies intermittentes ou des énergies renouvelables, comme on veut, je suis assez d'accord pour les appeler des énergies intermittentes.
Moi, j'aime mieux l'hydraulique. J'aime mieux l'hydraulique, la géothermie et la méthanisation.
Je pense que dans une fourniture énergétique, si on a des compléments d'énergie socle avec du gaz, comme ça on n'achète pas du gaz à des gens qui nous veulent pas du bien, et même si ça fait 10, 12, 13%, c'est toujours important. Mais c'est vrai que c'est pas avec des énergies renouvelables qu'on va régler le pic de cet hiver. Ça,
Frédéric,
sur les énergies socles, il y a le nucléaire. On a relancé, je crois que le gouvernement, enfin Emmanuel Macron a relancé un programme nucléaire. Vous parlez d'une loi.
Non, une loi va être votée. Le programme est toujours le même. Le PPE, c'est 50%. Vous n'avez pas changé la loi. Alors, 5 ans sans changer la loi. Ce n'est pas vrai.
Le PPE, donc, c'est le plan de programmation énergétique qui prévoit 50%. Toujours, aujourd'hui,
c'est
la fermeture d'un certain nombre de réacteurs.
Attendez,
un nouveau programme a été lancé avec une loi qui est passée en 2023. Début 2023. Qui devrait faciliter l'implantation des réacteurs. Et vous disiez, il faut relancer le nucléaire. Mais les prochains réacteurs EPR sortiront en 2035-2037 au mieux.
Pourquoi ? 5 ans en Chine avec les EPR.
Pas un peu d'éolien.
5 ans en Chine avec les EPR techniques françaises. 5 ans. Et vous êtes en train de me raconter que c'est 15 ans chez nous. Pourquoi ? Et après, vous me dites la SN et l'IRSN, c'est parfait. Je vous dis, c'est à cause de la SN et l'IRSN et à cause des réglementations.
J'ai fait cette analogie
façon simple. Hein. Vous êtes un type en train de se noyer. Il y a un bateau qui arrive, un bateau de sauvetage. Et puis il y a un mec qui lui dit, ah non, excusez-moi, il n'est pas réglementaire. Voilà, nous sommes dans cette situation. Et donc, je dis, quand on a ce problème-là, on essaie de le résoudre. Et ce problème-là n'est pas résolu, n'a pas été résolu pendant 5 ans et n'est pas résolu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence par dire faites des éoliennes et non pas, et en d'autres termes, on dit aux gens taisez-vous, vous aurez les éoliennes un peu comme ce que vous espériez, très bien. Et pendant ce temps-là, sur le nucléaire, on dit pas on va voir. Oui, 2023. Et 2023. Non, le programme aujourd'hui, la loi, c'est 50%. C'est le reste, c'est soi-disant des éoliennes et du solaire. Eh bien, ça ne marchera pas, puisque il faut du gaz et du charbon. Le gaz et le charbon, on n'en veut pas. On en remet quand même. Mmh. Et à l'heure actuelle, vous savez que lorsque vous allez dans Paris, on va vous dire que c'est le diesel qui vous envoie les particules fines. Non, c'est les centrales à charbon avec les Vendès qui viennent d'Allemagne qui vous donnent des particules fines.
On arrive au bout.
Ce qui est dingue, c'est qu'on est la 7e puissance mondiale et que on nous explique qu'on va avoir des coupures d'électricité cet hiver.
Mais il va y en avoir dans toute l'Europe.
C'est quand même incroyable.
Bon, merci en tout cas, Leclerc Florent, d'être venu ce soir.
Je suis bavard.
Oui.
Peut-être un peu véhément, mais j'écoute les gens.
On vous a écouté ce soir. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Je remercie également Frédéric Bianchi.